Laurent Turpin, le directeur artistique du Carrefour européen du 9e art et de l'image, festival de la bande dessinée à Aubenas, a fait une escale au collège Saint-François d'Assise, une belle rencontre à retrouver dès maintenant sur votre radio associative en milieu scolaire.
Du coup, on va commencer par des questions sur votre parcours.
Oui.
Première question, quelles études avez-vous faites ?
Oui, bah alors bonjour. Moi, j'ai un parcours très très atypique par rapport à la bande dessinée, parce que je suis ingénieur au départ de formation, et ensuite j'ai fait une école de commerce derrière. Mais j'ai toujours eu une passion, en fait, pour la communication en général, pour l'illustration et tout ce qui est image en particulier. Et donc c'est pour ça qu'on me retrouve dans ce métier, entre autres. Voilà, donc j'ai pas fait une école de journalisme, comme on pourrait le croire, ou des études littéraires poussées, quoi.
Depuis quand aimez-vous la BD ?
Depuis toujours. En fait, la bande dessinée, soit on la découvre quand on est petit. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient abonnés à Spirou très tôt. Ensuite, qui m'ont abonné à Mickey, donc j'ai toujours baigné dans l'univers de la bande dessinée. J'ai toujours aimé cette forme de narration. Et puis après, petit à petit, j'ai acheté des albums et puis je me suis mis à collectionner, j'allais dire, et puis à me renseigner de manière détaillée sur les différentes formes qui existaient et à lire de plus en plus de thématiques. C'est une éducation. En fait, lire de la bande dessinée, c'est pas inné. Quand vous le faites, quand vous êtes petit, ça va. Quand vous ne lisez pas de bande dessinée quand vous êtes jeune, après c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on rencontre des gens qui ont du mal à en lire aujourd'hui. Mais simplement, c'est une forme d'éducation, comme apprendre la lecture, j'allais dire cursive, enfin classique. Et il faut simplement comprendre que la bande dessinée, c'est un art elliptique, c'est un art séquencé. Donc on passe d'une case à l'autre en imaginant ce qui se passe entre les cases. Et c'est d'ailleurs une des différences entre la bande dessinée de type européenne et le manga, parce que ce qui se passe entre les cases est plus ou moins détaillé. Dans le manga, très détaillé. Dans une bande dessinée européenne, pas détaillée. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai commencé par Spirou, par Astérix, par tous les grands classiques. Et puis, petit à petit, j'ai découvert tout le reste. En grandissant, j'ai découvert la BD de grand.
Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le monde de la BD ?
La chance. La chance, le hasard, la volonté. Je travaillais dans la communication. Et donc, j'adorais la bande dessinée. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais un niveau d'expertise qui était un niveau d'expertise d'amateur, quoi. On en discutait beaucoup avec des libraires, entre amis et tout. Et j'ai eu la possibilité de travailler sur des dossiers de presse pour un festival de bande dessinée qui était à Chambéry à l'époque, en 1996, où le ministère avait décidé de fêter les centenaires de la bande dessinée et avait confié à une agence de relations presse tous les documents de communication. Et j'ai travaillé dessus, parce que la personne qui était en charge a dit « Tiens, t'aimes bien la BD, travaille dessus ». Et en travaillant dessus, en fait, j'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelait Claude Moliterni, qu'on appelait le pape de la bande dessinée à l'époque, qui était cofondateur du Festival d'Angoulême, qui a déjà écrit de nombreux livres encyclopédiques, et qui m'a dit « Oh, mais tu t'y connais bien, je voudrais que tu travailles avec moi ». Et donc, j'ai eu la possibilité avec lui. Alors, à l'époque, il m'a fait travailler sur ça vous dit peut-être rien, un CD-ROM encyclopédique, parce qu'à l'époque, on faisait des CD-ROM, vous voyez pas ce que c'est, hein. C'est des trucs en ligne maintenant, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était sur un disque, quoi. Mais c'est comme si on avait fait un site, et d'ailleurs avec lui on a fait ensuite un site qui s'appelle bdzoom.com, mais qui est un site plus d'actualité, mais à l'époque donc c'était un CD-ROM encyclopédique, et avec Claude j'ai fait pas mal de livres, pas mal d'autres travaux, puis ensuite j'ai écrit dans beaucoup de choses, mais c'est la rencontre qui m'a permis d'eux, et puis ensuite le travail, beaucoup de travail, toujours du travail.
Est-ce que vous dessinez ?
Non. Si, mais très mal. j'ose plus. Non, c'est pour ça aussi que j'adore la bande dessinée, parce que moi je suis complètement stupéfait de voir des gens, notamment, je sais pas si vous avez l'habitude de faire des dédicaces, si ça vous est déjà arrivé, de voir un auteur comme ça qui vous fait un dessin en deux minutes, dessin souvent très réussi, pas forcément abouti, parce qu'ils vont vite pour les dédicaces, mais ils font des choses qui sont remarquables. Ah non, moi c'est impossible, moi je fais les bonhommes avec les traits là, c'est le pendu moi.
Et quels sont vos auteurs et vos BD préférés ?
Il y en a beaucoup. Ma bande dessinée préférée, c'est Maus, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une bande dessinée américaine d'Art Spiegelman qui raconte en fait le récit de son père dans les camps de concentration où les nazis sont des... je ne me souviens plus, les chats et les juifs sont des souris. C'est remarquable. On a La balade de la mer salée, Corto Maltese, qui est quelque chose d'extraordinaire en termes d'aventure. Après, on va voir tous les grands classiques, les Astérix, il faut lire les Astérix parce que c'est bien. Et puis des comics, ça peut être les Batman de Miller, de Frank Miller par exemple, ou éventuellement, oui, on peut aller dans les mangas vers Tezuka, ou dans les mangas plus européens de Taniguchi, quoi. C'est assez large, hein. Moi j'ai une vision très très large, mais c'est vrai que j'ai des choses que j'adore, et puis d'autres que j'aime, voilà. J'ai pas de... c'est pour ça aussi que je suis journaliste en bande dessinée et que j'ai écrit des livres, c'est que j'ai vraiment une vision très très éclectique de l'art, quoi. J'ai pas de chapelle et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est donc du domaine, ce qu'on appelait contemporain dans les années 2000, donc tout ce qui est Riyad Sattouf par exemple, l'arabe du futur, je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez pas ça? Bah lisez un truc de Riyad Sattouf qui s'appelle Retour au collège. Où en fait il était, quand il a fait ça il y a une dizaine d'années, il est retourné au collège, il a réécrit en fait en classe de 3e je crois, il a réécrit une année scolaire de 3e, au quotidien quoi. Riyad Sattouf, pour information, c'est le grand prix d'Angoulême de cette année.
Alors moi je vais vous poser des questions sur votre métier, sur vos métiers.
Ouais.
Première question, quels sont vos métiers différents?
Dans la bande dessinée, parce que j'en ai d'autres encore. Je suis journaliste spécialisé en bande dessinée, je suis historien en bande dessinée et effectivement je suis animateur de débats et organisateur de festivals. Voilà tout ce que je fais. Ça veut dire que je me situe, si vous regardez la chaîne du livre, comment est-ce qu'on élabore un livre? Donc on commence en fait par l'auteur. Évidemment la première personne qui va créer un ouvrage, c'est l'auteur. Sans auteur, il n'y a pas d'ouvrage, on est bien d'accord? Et ensuite, il faut qu'il... Alors, quand il s'agit d'une bande dessinée, on va avoir un scénariste, on va avoir un dessinateur. Parfois, le scénariste et le dessinateur sont les mêmes personnes. Donc, ils vont rédiger le contenu. Et ils vont le faire, alors, soit de manière créative, soit sur commande d'un éditeur. Et ensuite, pour que leur livre existe, évidemment, il faut trouver un éditeur, ce qu'on appelle un éditeur. Donc, ça va être dans le monde de la bande dessinée. Ça va être, vous connaissez, ça va être Dargo, ça va être Dupuis, ça va être Hachette, ça va être, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est celui qui prend en charge toute la fabrication du livre et tout ce qu'il y a autour de la distribution du livre, même si ce n'est pas lui qui le fait directement. Donc, l'éditeur, lui, donc, il va coordonner la production de ce livre. Et ensuite, il va falloir, donc une fois que le livre est fait, donc les auteurs maintenant envoient par PDF hein, leur planche à l'éditeur, qui met ça en page. Et une fois que le livre est mis en page sous une forme PDF, eh ben on va l'envoyer où? Alors déjà, donc là, donc on va l'envoyer au correcteur, parce que parfois il y a quelques fautes d'orthographe, ça arrive. On va l'envoyer au maquettiste qui va rendre cohérent l'ensemble de l'album. Et puis évidemment à l'imprimeur, qui va faire que le livre va exister physiquement. Tout ça, on est dans la fabrication du livre. Et puis, mais une fois qu'on a fini cette fabrication, ça ne serait rien si on ne peut pas la mettre à disposition du public, et ça ne serait rien si on ne peut pas expliquer que cet ouvrage existe. Donc il y a tout ce qu'on appelle la commercialisation et la communication. Donc on a d'abord un diffuseur. En fait, un diffuseur, ce sont les représentants qui vont voir les libraires en disant « Regardez mon livre comme il est beau ». Il faut m'en acheter. Et les libraires passent commande. D'accord? Une fois que toutes les commandes sont passées, il y a ce qu'on appelle un distributeur, c'est-à-dire la personne qui a les camions, qui amène chez les libraires les livres qui ont été commandés. Une fois que le livre va être sur place, donc on a les métiers de la communication qui se mettent vraiment en place, et on a donc les attachés de presse. Les attachés de presse sont des gens chez les éditeurs ou qui travaillent de manière indépendante, qui vont appeler les journalistes ou tous les gens qui peuvent parler de la bande dessinée pour que la bande dessinée soit connue. Et donc c'est là que moi j'interviens, parce que l'attaché de presse va m'envoyer le livre, va faire un argumentaire de presse, va éventuellement m'appeler en me disant « Mais dis-moi Laurent, t'as pas envie de faire une interview de cet auteur qui est formidable, qui a sorti un livre extraordinaire ?» Ou alors qu'il va me demander éventuellement d'en faire un article ou un commentaire sur mon site, quoi. Ou sur un autre support dans lequel je travaille, si je suis un journaliste spécialisé, ou si je suis un journaliste généraliste, je peux aussi, quand je travaille dans le Monde ou à Libération, je peux aussi écrire évidemment des articles sur les bandes dessinées, puisque là on parle de bandes dessinées. Et il y a, donc ça c'est la partie librairie, évidemment il y a une autre partie, c'est les bibliothécaires, parce que l'ouvrage va être diffusé aussi en bibliothécaire, sur les plateformes de vente, etc., etc. Donc voilà comment on fonctionne. Et si vous voulez avoir une petite idée de la répartition du prix de vente par rapport à un livre, parce que c'est intéressant, on croit souvent que c'est celui qui écrit le livre qui touche tous les sous, pas du tout. L'auteur, en fait, il touche 8%, entre 8 et 10% du prix du livre, simplement. Celui qui gagne le plus d'argent, en réalité, c'est le libraire, à peu près 35% du prix du livre. Ceux, ensuite, qui touchent le plus, c'est distribution, diffusion, fabrication, et l'éditeur, 20%, voilà. Encore là, c'est plus sur un livre généraliste que sur une bande dessinée. J'interviens alors pour venir, si je suis donc journaliste spécialisé, je vous ai dit au moment de la sortie du livre, soit en interview, soit pour écrire des articles. Si je suis historien de la bande dessinée, dans le cadre de livres que j'écris, à ce moment-là, je vais faire une notice autour de ce livre. Et si je suis organisateur de bande dessinée ou modérateur de débat, je vais inviter des gens, je vais préparer. Et enfin, donc sur la programmation générale du festival, quand j'organise le festival, quoi.
Quel métier vous préférez et pourquoi ?
Dans la bande dessinée, moi j'aime tous les... Moi j'aime beaucoup travailler sur les ouvrages encyclopédiques parce qu'il y a forcément une dimension patrimoniale. Donc ça permet en plus aux gens de se repérer, donc tout ce qui est du domaine du guide. Maintenant, c'est vrai que les activités journalistiques, c'est formidable aussi parce qu'il y a des interactions avec les lecteurs. Moi, j'ai pas de... Le côté journalistique, je l'aime bien, parce qu'il y a un côté instantané, il y a un côté... on parle d'une bande dessinée, on l'écrit, on explique ce qu'on aime bien. Mais en fait, j'ai pas de préférence sur... Moi, ce que j'aime, c'est la bande dessinée en général. Et puis, si quand même, très très important, les rencontres avec les auteurs. Tout ce qui permet, en fait, d'avoir des rencontres avec des auteurs, sont des choses que j'adore.
En tant que directeur de publication, que publiez-vous ?
Eh ben voilà, le site internet BDZoom, c'est un site qui existe depuis l'an 2000. On a créé ça au départ avec Claude Moliternier et Philippe Mello, avec l'aide d'une société qui s'appelle Vivendi, dont on parle encore aujourd'hui, mais qui avait à l'époque des activités internet très importantes, et qui souhaitait associer à ces journaux d'annonces gratuites ce qui s'appelait Bonjour à l'époque et c'est devenu Paru Vendu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un peu comme le Bon Coin, quoi, mais en papier, d'accord ? Et qui souhaitait donc associer à ces journaux un magazine de contenu, et notamment autour de la bande dessinée, parce qu'ils se sont rendus compte que la bande dessinée fonctionnait très très bien en termes de petites annonces, de ventes d'occasion ou de ventes aux enchères. Et puis... il se trouve que mon ami Claude Moliternier est décédé, donc j'ai repris le flambeau tout seul sur le site, mais on l'a développé, et c'est là que c'est intéressant quand vous parlez de directeur de publication, c'est-à-dire qu'on a réussi à le développer avec les années, en le mettant à jour avec les différentes technologies, et en s'associant, moi je m'associe avec un autre ami qui s'appelle Gilles Ratier, qui est mon rédacteur en chef, et donc avec qui on élabore tout le contenu, en fait, du site. Moi, avec lui... sur l'ensemble des rubriques, et puis lui au quotidien, après sur les différents articles qui sont passés. Hein. Et la fonction de directeur de publication, en réalité, c'est une fonction de responsabilité légale. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a le moindre problème sur le site, c'est j'en suis le responsable. Et le site aujourd'hui m'appartient, personnellement. D'accord ? Ensuite, on va avoir le directeur de la rédaction, ou le rédacteur en chef aussi, qui lui va travailler justement sur le contenu, sur les articles. Et moi, ma responsabilité aussi de directeur de publication, c'est de veiller, si je peux, à trouver des financements éventuellement pour le faire évoluer. Ce qui est passionnant dans l'aventure BDZoom, c'est que c'est devenu un vrai site de contenu. On est une vraie référence sur le domaine encyclopédique et patrimonial. C'est-à-dire qu'on voit pas, il y a d'autres sites qui existent. Il y a un site qui s'appelle ActuABD, par exemple, qui est un site qui est vraiment lié à l'information quotidienne. Et nous, on est plutôt sur le contenu et sur le fond des choses. Comme là, vous voyez, on a un article sur Tintin. Il n'y a pas d'articles sur Tintin partout, déjà parce que les éditeurs de Tintin font la chasse aux articles sur Tintin. Donc le fait qu'on puisse en mettre, c'est la preuve quand même de notre, comment dire, de nos connaissances et de notre compétence. Et puis bon, il y a des articles un petit peu sur tout. Moi, je signe par exemple toutes les semaines donc cette rubrique sur les meilleures ventes, qui est la rubrique que je signe tous les mercredis. Donc qui est liée au classement des meilleures ventes. Qui est publié par Livret d'eau. Et puis j'ai un autre site qui s'appelle donc planetebd.com, où là il n'y a que des chroniques, que des critiques.
Quels sont les avantages de vos métiers?
On reçoit les bandes dessinées gratuitement. Alors pas tout le monde, hein, et pas tout. De moins en moins, parce que maintenant il y a beaucoup de PDF qui sont envoyés, mais enfin c'est aussi les bandes dessinées. En fait, pour nous, la bande dessinée, c'est heureusement, c'est un métier plaisir. C'est aussi, quand on parlait de journalistes spécialisés tout à l'heure, c'est aussi le plaisir qu'on a à travailler dans le domaine journalistique de cette thématique. On ne le fait jamais contraint. Et donc, pour pouvoir parler d'une bande dessinée, on a besoin de la lire, on a besoin de la comprendre, et donc on a besoin de la voir. Et donc, pour nous, c'est un outil professionnel. Et donc cet outil professionnel nous est fourni par les éditeurs, soit sur demande, en disant, voilà, on appelle l'éditeur, on dit, écoute, j'aimerais bien lire les cahiers d'Esther pour en faire un papier, simplement il faut que tu me l'envoies. Et donc les éditeurs, à ce moment-là, envoient le livre. Et puis parfois, les éditeurs qui tiennent à valoriser tel ou tel ouvrage vont envoyer spontanément à plein de journalistes spécialisés de bouquins pour que bah, y en ait, pour arroser quoi en fait, et qu'il y en ait de plus en plus beaucoup qui en parlent quoi. Donc c'est un peu comme ça en fonction du livre, s'ils y croient ou pas. Donc ça oui, quand on est passionné de bande dessinée et qu'on a, faut dire la vérité, qu'on a un ticket d'achat assez élevé par mois, bah, c'est toujours agréable de réduire quoi. Hein. Deuxième avantage, c'est la rencontre avec les auteurs, ça c'est formidable. Parce que pouvoir se retrouver... mais ça, on peut le faire en tant que passionné, hein, déjà. Quand on le fait, quand on va faire une dédicace, on peut discuter avec l'auteur, déjà. Mais là, interviewer un auteur, essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, quand il vous explique directement la manière dont il a fait son livre, comment il l'a conçu... ça, c'est vraiment passionnant aussi. Et puis, au-delà de ça, eh ben, les rencontres, elles deviennent aussi parfois personnelles. On fait des rencontres individuelles, d'amitié. Et ça, c'est super, parce que quand on est dans un métier où on admire ce que font les gens, si en plus on devient ami avec eux, on est super content. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, quelques soirées par-ci, par-là. Ça, je n'irai pas plus loin. Surtout dans des festivals, d'ailleurs.
Quels sont les inconvénients de vos métiers?
On travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Comme on dit, le journal tombe à l'heure. C'est-à-dire que quand on doit rendre un papier... Alors, sur le site internet, c'est un peu différent. Et encore, nous, on a un rubriquage qui fait que tous les jours, on va avoir un article différent, fait par une personne différente, et donc il faut le rendre. Et pour qu'il soit rendu, il faut le rendre au moins 2 jours avant, si possible, pour que le rédacteur en chef puisse le relire, éventuellement le corriger. Et donc le délai, c'est un vrai souci, que ce soit dans l'élaboration des articles ou dans les livres. Parce que c'est pareil, quand on rend un livre encyclopédique, l'éditeur, il l'attend pour pouvoir le mettre à l'impression. Et on est comme tout le monde, quoi, je veux dire comme vous. Bah, le jour où on n'a pas envie d'écrire, eh ben, on n'y arrive pas, et puis il y a parfois, ça vient pas, quoi. Donc la vraie difficulté, c'est ça. Parfois, on se retrouve à travailler la nuit, quoi, pour pouvoir rendre le papier le lendemain. Donc ça, c'est, voilà, c'était quoi, inconvénient? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Non, après, on peut de temps en temps écrire un article que l'auteur n'apprécie pas, bon. Ça se passe pas toujours bien, ou on reçoit un coup de fil de l'éditeur en disant si t'aimes pas nos livres, faut le dire, on t'en enverra plus. Mais faut pas dire des choses comme ça, je suis enregistré, je peux pas le dire. Mais c'est vrai, il y a parfois un petit peu de pression, on va dire, sur certains, puis des demandes particulières qu'il faut honorer. Donc ça, c'est pas le plus rigolo. Mais bon, ça va, quoi. Ça va.
Est-ce que vous viviez de vos métiers?
Non. Pas vraiment. Alors c'est justement aussi les compléments de journalistes spécialisés. C'est-à-dire que autant un journaliste qui a une carte de journaliste va aller travailler sur un support genre écrit ou télé ou radio, hein, parce que quand on parle de journaliste, il faut voir très large. Hein, moi je suis journaliste écrit, mais j'ai aussi fait de la radio, j'ai aussi fait des petites plateformes audiovisuelles. Hein, ça s'appelait Trait pour Trait, vous pouvez trouver ça sur YouTube aussi, où je faisais ça avec Christophe Villain, on interviewait beaucoup d'auteurs. En réalité, on fait beaucoup plus ça par passion que pour gagner de l'argent. Donc je vais être payé quand je fais des prestations de direction artistique, de débat, pas sur mon site. Mon site, c'est une vitrine, en réalité. Et puis on est payé à la pige quand on travaille pour des journaux. Et les piges, ça nourrit pas son homme, sauf à courir à ne faire que ça. Moi, j'ai d'autres activités qui sont rémunératrices, par ailleurs. Donc je peux pas dire que la bande dessinée soit mon activité principale et que je gagne beaucoup d'argent avec ça. Et je connais parmi tous mes collègues très peu de gens qui gagnent de l'argent, enfin qui gagnent leur vie avec ça entièrement. Très peu.
Tout parler sur les dessous du festival de Benave.
Le
festival de Benave, oui. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle d'un directeur artistique du festival?
Oui, je fais tout. Non, c'est pas vrai. C'est un petit peu comme. Je vais vous montrer un petit papier après. C'est un petit peu comme le directeur de publication tout à l'heure. Si vous voulez, dans la production, on a les producteurs délégués, les producteurs exécutifs dans le cinéma. On a les gens qui décident de faire le festival. C'est la ville d'Aubenas qui décide de faire le festival, qui confie au service culturel ou à une association, en l'occurrence ici c'est le service culturel, le soin de mettre en place le festival. Et le service culturel ou l'association vont travailler avec ce qu'on appelle un directeur artistique, c'est-à-dire qu'il va être en charge de l'orientation artistique et de la programmation du festival. Ça, c'est mon rôle global. Donc un festival, déjà au départ, est-ce que c'est juste un festival de bande dessinée? C'est-à-dire on dit on va inviter des auteurs, ils vont avoir des tréteaux, une chaise, ils vont signer, ils vont dédicacer. Ou alors est-ce que c'est plutôt ce qu'on va appeler un festival avec des rencontres, avec des expositions, et en général on en définit une thématique. Et si on veut parler d'Aubenas, au départ la thématique qui avait été élaborée, c'était les passerelles qu'il y a entre le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, et les autres formes de l'image. Donc ça va être cinéma, ça va être dessin animé, ça va être jeu vidéo, par exemple. Donc c'est essayer d'explorer un petit peu ça. Et en ça, par exemple, le manga est formidable, parce que chaque manga a son dessin animé, quoi, en gros. Enfin, les mangas les plus importants, quoi. Et donc la première chose que doit faire un directeur artistique, en tout cas moi dans mes missions, c'est déjà de trouver un invité d'honneur. Bon, il est possible qu'il y en ait déjà un qui ait été trouvé, que... le maire ou les services culturels aient une idée à ce moment-là de le contacter. Mais l'idée, c'est ça, c'est quel peut être l'invité d'honneur de la prochaine édition, parce que la première personne la plus importante, c'est celui qui va faire l'affiche, parce que c'est vraiment l'image de l'édition du festival. Et au-delà de l'affiche, qu'est-ce qu'il va amener au festival? Et c'est souvent, là, pour le coup, il faut qu'on trouve un auteur qui soit très important, je veux dire très connu. Et après, comment je travaille une fois que j'ai mon invité de l'honneur? Donc évidemment, l'invité d'honneur, c'est celui qui va faire l'affiche. L'auteur a une contrainte sur l'affiche qui est amenée par le service communication, c'est qu'on voit le château. Et donc tous les auteurs imaginent une affiche en fonction de leur propre univers avec le château. Là, Jacques, il a eu l'idée donc de faire avec ses personnages une vue de dessus, ce qui est assez original. Ça, moi, je regarde, mais c'est surtout le service communication en fait qui est en charge de contrôler si le cahier des charges qui a été indiqué est bien respecté, parce qu'il faut laisser la place pour qu'on mette les sponsors, il faut qu'on puisse mettre le nom des, vous voyez, en bas, il faut qu'on puisse mettre le titre en haut, enfin voilà quoi, ça c'est, donc le dessin doit laisser les places à tout ça quoi, ça c'est important. Et ensuite qu'on puisse le décliner, bon bah comme vous voyez là en haut, en un bandeau ou alors en différents pavés, etc. Donc ensuite, mon autre travail, c'est donc d'élaborer le plateau d'auteur, j'ai dit avec les libraires. En fait, le plateau d'auteur, donc il y a entre 25 et 30 auteurs qui viennent à Aubenas. Je demande à l'invité d'honneur quels sont ses auteurs amis, parce qu'en général, on essaye de créer une dynamique amicale. Et ensuite, je trouve les autres auteurs, je vais y revenir, ou aussi le libraire propose des auteurs, donc le libraire qui est... Jacques, dont j'ai oublié le nom, mais qui est à la FNAC, hein, et puis...
Jacques Boucher,
puis les gens de la librairie
du
château aussi, hein, qui travaillent là-dessus, donc qui proposent ou qui invitent des gens. Et moi, j'invite des gens soit que je connais, ou alors en passant par les éditeurs. Et donc, ça donne une programmation, donc je vous dis, entre environ 25 auteurs, on essaie d'équilibrer entre les auteurs hommes et les auteurs femmes. Et aussi en genre, jeunesse, adulte, manga, etc., etc. Donc voilà comment est-ce qu'on essaye d'organiser le plateau et puis de le rendre un petit peu, divers, hein, et de représenter la diversité et les goûts des lecteurs. Ensuite, il s'agit de travailler sur les expositions. Alors on a souvent une exposition de l'auteur phare. On a une deuxième, une exposition parfois donc à l'espace Liénard, et on a aussi une exposition à la médiathèque. C'est souvent l'exposition d'un autre auteur que je trouve qui va faire les ateliers. Donc on a une personne qui vient pendant une semaine avant le festival faire des ateliers en scolaire et qui bénéficie d'une exposition à la médiathèque. Et les ateliers scolaires aussi, ça s'organise évidemment. Et pour compléter donc le week-end, une ou deux rencontres débat, donc souvent avec l'invité d'honneur, sa vie, son œuvre, donc une rencontre. Et on élabore après, tout ce qui va habiller le festival, des petits ateliers pour que les enfants fassent des dessins, un stand de bandes dessinées d'occasion ou d'anciens, enfin voilà, un espace lecture de la médiathèque où les gens peuvent lire des BD gratuitement, enfin voilà, tout ça habille. Et ensuite, donc, on a tous les aspects de communication donc, autour de l'affiche et des relations presse, donc que je fais en accompagnement avec le service communication. Tout ça fait partie aussi de mon boulot. Et évidemment, quand les auteurs sont sur place, il faut les encadrer, parce que ce sont des grands enfants. Il faut les accompagner et les encadrer. Et puis, au final, on fait un bilan de l'édition par rapport au nombre de personnes qui sont venues, comment s'est déroulé l'ensemble de la manifestation, et puis ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut garder, quoi. Voilà, en gros. C'est pas mal, hein? C'est riche. Ça prend un an, à peu près.
Quelles sont vos ambitions pour le Festival d'Aubenas?
Alors, en fait, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, mais moi, je peux essayer d'y répondre à mon niveau. C'est quoi les ambitions qu'on peut avoir? Ça va être essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de visiteurs, ou alors que... on augmente le nombre d'auteurs, ou alors qu'on augmente le nombre d'expositions, machin, etc. Moi, si j'ai mes propres ambitions, c'est de le faire grandir au maximum en termes qualitatifs. Voilà. Mais après, je sais aussi qu'il y a des contraintes qui sont des contraintes financières, qui sont des contraintes techniques, disponibilité de salles, etc., qui sont des contraintes temporelles, hein, on n'a qu'un week-end, et là, que je ne maîtrise pas, quoi.
C'était Laurent Turpin sur l'antenne d'Info RC, directeur artistique du Carrefour européen du 9e art et de l'image d'Aubenas. Une interview proposée par la classe de 3e 5 du collège Saint-François d'Assise. Elle est également disponible en podcast sur notre site internet et vous pouvez retrouver l'ensemble des projets du collège sur le blog du collège sfactu.com, SF comme Saint-François, sfactu.com. Très belle journée à l'écoute de nos programmes.